bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 27 août. Covid-19, 1731 nouveaux cas quotidiens recensés ces 8 derniers jours en moyenne. La Corée du Sud accordera un titre de long séjour aux Afghans pour contribution exceptionnelle. Les lignes de communication intercoréennes toujours bloquées malgré la fin des exercices Séoul-Washington. Enfin, Moon Jae-in promet de hisser la Corée du Sud parmi les 4 puissances mondiales des start-up. On commence par la crise pandémique. En 24 heures, 1841 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été identifiées en Corée du Sud. Sur les 8 derniers jours, ce sont 1731 patients supplémentaires qui ont été recensés chaque jour en moyenne. 54,4% des lits dans les centres de soins légers sont actuellement occupés et 62 nouveaux patients résidant dans la région de Séoul reçoivent des traitements à domicile. D'autre part, le gouvernement débloquera un fonds de 140 millions d'euros pour dédommager les hôpitaux traitant les patients atteints par le virus et les établissements qui ont été obligés de fermer provisoirement leurs portes. Ainsi, 234 hôpitaux recevront un total de 130 millions d'euros et une enveloppe d'environ 9 millions d'euros sera offerte à quelques 3500 entités qui ont suspendu leurs activités. Côté vaccination, 54% de la population ont reçu la première dose du sérum et 26,8% toutes les doses nécessaires. Enfin, l'exécutif a fait savoir qu'il déciderait de permettre ou non les rassemblements familiaux et les visites dans les maisons de retraite aux alentours de Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes, en fonction de l'évolution de la situation. Et malgré la progression du coronavirus, les personnels médicaux entameront une grève générale le 2 septembre si les négociations avec le gouvernement n'aboutissent pas d'ici la veille. La Corporation nationale des travailleurs de l'industrie médicale de la KCTU, la Confédération syndicale progressiste du pays, a annoncé ce matin que 82% des membres du syndicat parmi 90% de ceux qui ont participé au vote avaient opté pour cette perspective. Le scrutin s'est déroulé entre le 18 et le 26 août dans 136 établissements médicaux. La corporation avance 8 revendications clés, dont la création d'un hôpital réservé aux maladies infectieuses, l'élaboration de critères pour le personnel chargé de traiter la pandémie, la mise en place de primes de sécurité et le renforcement des effectifs, des équipements et des locaux dans les hôpitaux publics. Place à l'actualité internationale. Alors que de nombreuses nations, avec les États-Unis en tête, mènent des opérations d'évacuation en Afghanistan, où le pouvoir est tombé aux mains des talibans, un double attentat suicide sanglant a eu lieu en deux endroits proches de l'aéroport de Kaboul, la capitale. Selon le département d'État américain, le premier attentat s'est produit à Abbey Gate, l'un des 3 points d'accès à l'aéroport, et le second à l'hôtel Baron. Le Pentagone déplore 13 décès et 18 blessés parmi les soldats américains. D'après la chaîne américaine CBS, le bilan global pourrait s'élever à environ 90 morts et 150 blessés, y compris des civils. Cependant, il risque de s'alourdir encore, plusieurs milliers de personnes étant attroupées dans les environs de l'aéroport. Sur place, on redoute des attaques supplémentaires. Washington a désigné l'État islamique comme l'instigateur de ces actes. Dès cette annonce, le groupe terroriste a d'ailleurs revendiqué l'attaque. Le président américain Joe Biden a déclaré que son pays traquerait les auteurs des attentats et leur en ferait payer le prix et poursuivrait aussi ses opérations d'évacuation comme prévu, donc jusqu'au 31 août. À Séoul, le gouvernement a exprimé ses profondes inquiétudes tout en condamnant vivement ce double attentat qui a fait de nombreuses victimes. Dans un communiqué publié par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il a affirmé sa position selon laquelle aucun motif ne pouvait justifier un attentat et s'est dit prêt à s'aligner activement sur la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. Et pendant ce temps, le gouvernement s'apprête à entamer des procédures par étapes pour permettre à 390 Afghans de résider librement au pays du matin clair. Il s'agit des 377 individus qui sont arrivés hier en fin de journée à bord d'un avion de transport militaire sud-coréen à l'aéroport international d'Incheon et des 13 restants qui viennent de leur emboîter le pas aujourd'hui en début d'après-midi. Les premiers ont été conduits vers le centre de formation des fonctionnaires situé à Incheon dans la province de Chungcheong du Nord. On a appris qu'après une longue réflexion, le gouvernement avait décidé d'accueillir ses employés locaux ayant travaillé dans des établissements sud-coréens en Afghanistan, ainsi que leurs proches. Ils sont ainsi accueillis en qualité de contributeurs exceptionnels et non sous le statut de réfugiés. Par ailleurs, ils bénéficieront d'un plus grand soutien financier que les réfugiés pour mieux s'enraciner dans le pays. Et dans le détail, l'exécutif a d'abord délivré aux intéressés un visa de court séjour, dit SC3, valable 90 jours, avant d'être remplacé par un visa de long séjour F1, permettant de vivre plus stablement. Une fois terminé leur hébergement, le visa F2 leur sera accordé afin qu'ils puissent séjourner et travailler en toute liberté, en toute autonomie dans le pays. Une précision, au début, Séoul avait annoncé l'arrivée de 391 Afghans au pays du matin clair. Or, lorsque les autorités ont procédé à une nouvelle identification au Pakistan, le lieu d'escale, elles ont découvert qu'un passager n'était pas inscrit sur la liste des personnes que la Corée du Sud a décidé d'accueillir. L'individu en question a été ramené à l'aéroport de Kaboul et remis à l'armée américaine sur place. Les représentants des riverains du centre de Jincheon ont affiché leur volonté d'accueillir chaleureusement ces exilés. Selon eux, on ne doit pas fermer les yeux devant ces victimes qui connaissent une situation aussi tragique que la guerre fratricide du peuple coréen. Par ailleurs, le ministère de la Justice a promis de prendre toutes les mesures pour dissiper les inquiétudes de certains habitants quant à leur sécurité.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Et on en vient à notre dossier nord-coréen. Les États-Unis disposent de capacités suffisantes, y compris avec ses missiles intercepteurs, afin de faire face à la menace balistique nord-coréenne. C'est ce qu'a affirmé jeudi le chef du commandement stratégique des États-Unis, Charles Richard, au cours d'un débat en visioconférence organisé par l'Institut Hudson, un think tank basé à Washington. L'amiral répondait à la question de savoir si l'armée américaine avait déployé suffisamment de missiles intercepteurs pour contrer toute menace en provenance du pays communiste vis-à-vis du continent américain. Il s'est dit convaincu qu'à l'heure actuelle, son pays est parvenu à rythmer l'évolution de la menace en question. Et Richard a précisé que le système d'alerte précoce était certes important, mais que les missiles intercepteurs déployés ne garantissaient pas à eux seuls la défense antimissile. Du coup, il a souligné que le mécanisme intégré et les efforts qui l'accompagnent étaient aussi importants que cet arsenal. Et puis, malgré la fin des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains que la Corée du Nord dénonce comme une répétition en vue d'une invasion de son territoire, Pyongyang maintient toujours le silence radio sur les lignes de communications intercoréennes. Un responsable du ministère de la Réunification a fait savoir que la Corée du Nord n'avait pas répondu à l'appel ce matin à 9h. Idem pour la hotline militaire. Cela fait 18 jours que le pays communiste ignore les appels de Séoul, c'est-à-dire depuis que les manœuvres militaires conjointes préparatoires avec Washington ont débuté. Cela n'empêche pourtant pas le ministère chargé des relations intercoréennes de continuer de tenter de le joindre. Pour rappel, les deux Corées ont eu des appels réguliers, à savoir deux par jour, par le biais de leur bureau de liaison et de leurs canaux de communication militaire depuis leur restauration le 27 juillet dernier. Le Nord les avait coupés unilatéralement le 9 juin 2020. Politique intérieure à présent, alors que la polémique autour de la révision de la loi sur l'arbitrage ne désenfle pas, même au sein du Minju, le parti au pouvoir a décidé aujourd'hui, à l'issue d'une réunion, d'ouvrir une assemblée des députés lundi, juste avant la session plénière au cours de laquelle il envisage, malgré tout, de faire passer au vote le texte controversé. L'objectif, persuader les élus de la formation présidentielle de la nécessité de ce projet qui permettra de sanctionner lourdement les groupes de presse et d'audiovisuel qui publient ou diffusent des fausses informations. Et pour cause, certains du camp progressiste préconisent plus de prudence en souhaitant examiner plus longuement ce texte. En effet, hier, le patron du Minju, Song Yong-gil, et le conseiller présidentiel aux affaires politiques Lee Chol-hee se sont rencontrés afin de discuter de ce sujet. En face, le président du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple, Kim Ki-hyun, a organisé une conférence de presse. Ce patron du premier parti de l'opposition a dénoncé cette démarche comme un moyen de contrôle des médias sud-coréens, d'autant que cette loi ne sera pas appliquée aux presses étrangères, d'après le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Le président de la République prévoit d'apporter un soutien à tous les maillons de la chaîne des start-up, depuis leur création jusqu'à leur seconde chance, avec l'objectif de placer la Corée du Sud parmi les 4 premiers pays au monde en la matière. C'est ce qu'a affirmé Moon Jae-in lors de la K-Plus Venture, une réunion organisée hier à la Changwa-dae qui vise à examiner les résultats du second boom de jeunes pousses et la perspective d'avenir. Le chef de l'État a promis un soutien total à cette fin. Il a précisé 3 défis à relever. D'abord, promouvoir la création d'entreprises dans les secteurs à haute intensité technologique, attirer les cerveaux et les investissements et dynamiser le marché des fusions et des acquisitions. Dans cette optique, Moon Jae-in a promis un nouveau fonds de 730 millions d'euros. Selon lui, pour les fonds d'investissement public-privé, c'est le gouvernement qui sera le premier à assurer les pertes pour distribuer les bénéfices prioritairement aux acteurs privés. On termine avec les nouvelles technologies de Samsung Electronics qui a lancé aujourd'hui ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 dans une quarantaine de pays, dont la Corée du Sud, la France, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Il envisage de les rendre disponibles dans 130 nations d'ici octobre. Grâce à leur puissance résistante, leur forme élégante et leur technique perfectionnée, sans parler du prix plus abordable, ces nouveautés ont reçu un accueil très favorable lors de leur dévoilement le 11 août dernier. En effet, le nombre de pré-réservations a dépassé de loin celui de leurs prédécesseurs dans quelques 70 pays. La nouvelle série Galaxy Watch 4 et les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 ont également été mis en vente aujourd'hui dans le monde entier. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et bon week-end à tous.